voilà, vous êtes sur Radio Galère 88.4. Ah, ça commence. Il faut qu'on arrête ça tout de suite. Ça y est, on a arrêté. Et donc vous êtes sur la nouvelle chanson des Andes, vous avez reconnu le style. Et toujours les mêmes styles de problèmes. À mon âge, on a des problèmes pour apprendre. Ce qui fait que c'est un peu cafouche, dirons-nous, avec l'accent pointu. Bon, voilà, Bolivar Info. Vous savez que en Équateur, il y a des problèmes. Un nouveau décret a été... Il y a un nouveau décret qui a été... j'allais dire qu'il avait été décrété. Qui a été retenu parce que le décret 883 a été abrogé. Dans le nouveau décret, il y a le fait que ce décret rend nul et non avenu le décret précédent, et un décret exécutif sera élaboré immédiatement. Il devra permettre une politique de subvention sur les combustibles basée sur des critères de rationalisation, de localisation et de sectorisation, pour que ces subventions ne soient pas destinées aux personnes qui ont les plus hauts revenus, ni non plus à ceux qui font la contrebande de combustible. Ben, c'est bien le moins. Jusqu'à ce que ce nouveau décret soit publié, on reviendra au prix établi avant le décret 883. C'était le 1er octobre 2019. Les prix dans les stations-service auront été mis en place hier, 15 octobre 2019, à minuit. La CONAIE évalue sa lutte pour l'abrogation du décret 883. La journée de dimanche a été longue. Le dialogue entre le président Lénine Moreno, le traître, et les dirigeants indigènes a débuté autour de 11h45 quand celui-ci est arrivé au gouvernement de Guayaquil, car le gouvernement a été déplacé de Quito à Guayaquil, car à Quito, la pression était forte. Le gouvernement a été obligé de fuir. Donc, le gouvernement est encore à Guayaquil, du moins, je crois, moins que ça ait changé ce matin. Au moins 9 représentants des peuples indigènes et 4 du gouvernement ont préparé pendant la matinée le décret qui va remplacer le décret 883. L'Équateur attend de connaître son contenu. Le président a annoncé sur Twitter qu'il le publiera incessamment. Les dirigeants de la CONAIE ont donné une conférence de presse. Jaime Vargas a réaffirmé qu'il a dit au président Lénine Moreno que les ministres de défense et du gouvernement Osvaldo Jarrín et Maria Paula Romo doivent démissionner, que ces deux ministres doivent payer pour ce nouveau crime contre le peuple équatorien. Vargas a souligné que lui et ses frères indigènes sont des hommes de paix, mais que si les forces de l'ordre commencent à réprimer, le peuple est prêt à se défendre. Les autres voix du soulèvement indigène, Luisa Lozano, Mujeres Conaie, merci à la Maison de la Culture, aux universités de Quito pour nous avoir accueillis. Aujourd'hui, nous continuons à résister Depuis plus de 530 ans, dit-elle, en tant que femmes indigènes, nous avons donné notre corps à la lutte, nous l'avons affronté à visage découvert, nous avons dit au gouvernement, nous sommes ici, nous, les femmes qui luttons pour les droits collectifs, mais nous avons toujours été rendues invisibles. Marion Santi de Pachakutik a dit que ce dialogue aurait dû avoir lieu avant et pas après qu'il y ait eu des morts. On doit aussi gouverner le pays avec les indigènes et avec les opprimés aussi. Je veux remercier les femmes, sans elles pas de révolution, et le peuple de Quito qui nous a accueillis et accompagnés pendant tous ces jours. Le projet destiné à changer la réalité est dans les mains des autorités. L'Équateur doit s'approprier l'État, j'ai demandé du soutien, et les héros aussi feront partie de ce changement de génération. Ils doivent apprendre de leur participation. Andrés Tapia, c'est là, Confenaillé. Nous lançons un appel à la communauté internationale pour qu'elle protège la vie des dirigeants qui ont été à la tête des mobilisations et la liberté des indigènes qui, à présent, sont criminalisés. Traduction Françoise Lopez, voilà, pour Bolivar Info, bien sûr. Le bilan des manifestations. La défense du peuple de l'Équateur a remis, c'était avant-hier, un bilan des protestations de masse qui ont eu lieu dans le pays. L'institution révèle dans ce document que 8 personnes ont été tuées, 1340 blessées et 1192 arrêtés par des policiers ou des militaires. C'est dans la province de Pichincha, au nord du pays, qu'il y a eu le plus de personnes arrêtées. Évidemment, la province de Pichincha, c'est celle qui abrite la capitale, Quito, dans laquelle il y avait le plus de réactions anti-gouvernementales. Donc, nombre de personnes arrêtées à Pichincha, 310. C'est là aussi que sont morts les trois manifestants, Raúl Chipe, Marco Otto et José Daniel Chaluisa. Les résultats ont été publiés après la signature de l'accord de dialogue entre le gouvernement et les organisations indigènes pour l'arrêt des manifestations contre l'abrogation du décret 883 et son remplacement par l'autre proposition élaborée conjointement. Voilà l'explication de l'abrogation. Voilà. Alors, les accords obtenus sont l'abrogation du décret 883, l'installation d'une commission composée par le mouvement indigène avec la médiation d'ONU Équateur et de la conférence épiscopale. Remplacement du décret 883 par un autre décret qui tient compte des revendications de ceux qui se sont mobilisés pendant 11 jours. De nombreux manifestants sont morts, il y a 100 disparus et des milliers de blessés et de personnes arrêtées. Dimanche 13 octobre, le dialogue entre le président Lénine Moreno, le traître, et la Confédération des Nationalités Indigènes, la CONAIE, a débuté. Moreno a commencé par demander qu'un nouveau décret bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin. Jaime Vargas, président de la CONAIE, a dit « Je suis indigné par tout ce qui s'est passé ». Et il a parlé des morts, des blessés, des arrestations. Il a insisté sur le fait qu'il ne ferait pas d'autre demande que la demande initiale d'abrogation de l'accord avec le FMI, contrairement à d'autres dirigeants. La rencontre s'est prolongée après que certains points opérationnels et de sécurité aient trouvé une solution. Selon la Conférence épiscopale équatorienne et le système des Nations Unies en Équateur, Moreno a répondu à Vargas en disant que pour lui, la suppression des subventions sur l'essence profitera bien à la population, surtout à la plus pauvre, mais qu'elle renforcera aussi la dollarisation. Le président a encouragé à chercher une formule pour que l'argent produit par la suppression des subventions sur l'essence soit destiné aux plus pauvres et il a signalé qu'une commission bilatérale analysera les positions et devra y travailler. Cependant, il a affirmé que la seule chose qu'il ne fera pas, ce sera de discuter avec les coréistes, c'est-à-dire avec les partisans de l'ex-président Rafael Correa, 2007-2017, qu'il a rendu responsable de la crise qui affecte le pays et d'avoir encouragé une vague de déstabilisation. Nous ne faisons pas le jeu de ceux qui ont laissé le pays détruit. Il est gonflé, le gars. Il ne faut pas oublier qu'il était le bras droit de Rafael Correa et qu'il s'est engagé à continuer la révolution citoyenne et que, à peine un mois après avoir été à la tête du gouvernement, il a tourné le dos à ses promesses. C'est pour ça que je dis à chaque fois le traître. Vargas a demandé au chef de l'État que les accords obtenus avec le Fonds monétaire international par lesquels les subventions ont été supprimées soient transparents. Il s'est plaint de l'absence de dialogue de la part des ministres cette dernière année et particulièrement il a demandé le départ des ministres de gouvernement Maria Paula Romo et de la Défense Oswaldo Jarrín à cause de la violence démesurée contre le peuple lors des protestations. À la table des négociations, le dirigeant indigène Abelardo Granda a demandé à Moreno de lever l'état d'urgence en vigueur depuis le 3 octobre, dans la zone métropolitaine, en tout cas au moment où les manifestations ont débuté. Pour sa part, dans une allocution brillante et émouvante, une dirigeante indigène du nom de Sarayaku, une Quechua, a appelé à Moreno comme il le mérite. Elle a appelé Moreno un criminel qui a ordonné de réprimer et de tuer son peuple. Elle l'a dit sans embâge et l'a prévenu qu'il portera la responsabilité de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. On s'est ensuite accordé sur l'établissement d'un nouveau décret qui rend sans effet le décret 883. Pour cela, il va s'installer une commission qui élaborera le nouveau décret et sera composée des membres des organisations indigènes et du gouvernement. Selon ce qu'ils ont dit, il y aura une médiation des États-Unis et de la conférence épiscopale, je l'ai déjà cité. Ainsi, la grève s'achève, les mobilisations se terminent et ils s'engagent à rétablir la paix dans le pays. Alors, dans les rues, des milliers de personnes qui suivaient la discussion à la radio ou à la télévision. Les discussions entre les indigènes et le gouvernement étaient diffusées en direct. Ils ont éclaté de joie, évidemment. Ben, nous aussi, nous sommes contents. Nous apprécions. Le peuple mobilisé a tordu le bras à Moreno et au FMI. Donc, c'est possible. Maintenant, viennent de nouvelles batailles, mais celle-ci, la dernière, là, ceux d'en bas, les sans-dents, l'ont gagné héroïquement. Traduction Françoise Lopez, Bolivar Info bien sûr. L'origine, la source, c'est resumenlatinoamericano.org. Une préfète de l'opposition a été sans preuve à son domicile. La préfète de Pichincha, dont la capitale est Quito, Paola Pabón, a été arrêté par le ministère public de l'Équateur avec le soutien de la police locale, sans ordre judiciaire, après une perquisition illégale à son domicile pour réaliser des investigations, paraît-il. Elle a diffusé en direct elle-même cet événement survenu lundi matin, 14 octobre, sur son compte Facebook. Aujourd'hui, ils sont entrés chez moi, ils ont enfoncé la porte pendant que je dormais. Ils m'ont arrêté sans preuve Être dans l'opposition dans une démocratie ne peut pas être un délit. Ce n'est pas une démocratie quand on persécute les opposants politiques de cette façon, dit Papon, pas bonne. Bon, c'est pas chouette pour quelqu'un de s'appeler comme ça. La dirigeante politique du mouvement Force Engagement Social a été accusée par le gouvernement du président Lénine Moreno d'être une des instigatrices des mobilisations contre le paquet de réformes néolibérales annoncé le 1er octobre. Bien fait pour lui. Sur les images de la vidéo, on voit un groupe de policiers du groupe spécial mobile antidrogue et d'une unité de renseignement antidélinquance qui l'entoure en silence, pendant que la préfète crie « Vous êtes chez moi, je veux voir l'ordre judiciaire ». Que ce soit clair, le gouvernement ne va pas durer toute la vie. Ils m'ont trouvé dans ma chambre, endormi. C'est la conspiration, indique Pabon, qui a été transféré dans une unité de flagrant délit de Quito. Flagrant délit de quoi ? Je vous le demande, elle était en train de dormir. Moreno a accusé la semaine dernière l'ex-président équatorien Rafael Correa, que nous avons pu voir sur de nombreuses chaînes de télé en français comme en espagnol, et voir sur YouTube et enregistré par la presse écrite. Donc Moreno a accusé Rafael et puis Ricardo Patiño, Virgilio, Ricardo Patiño qui est allé se cacher au Mexique, je crois. Virgilio Hernández, Paula Pabon d'être derrière une soi-disant tentative de coup d'État. C'est le nom que le président donne aux protestations populaires provoquées par l'application des mesures néolibérales. Voilà. Pour sa part, le ministère public rapporte sur son compte Twitter qu'après les investigations qu'il a réalisées avec le soutien de la police, ont été arrêtés Paola P., Christian G. et Pablo D. Dans les perquisitions, on a trouvé des indices comme du matériel technologique, des téléphones, des substances sujettes au contrôle et des documents. Tiens, voilà. Traduction Françoise Lopez. Et la source, c'est Télésur TV. Voilà. Équateur, voilà. Ben, je vais demander quelque chose sur le Venezuela. Équateur et Venezuela. Morale à plusieurs vitesses au Chili. Je n'y vois plus. Excusez-moi d'agrandir les lettres un peu. Au Venezuela, on obtiendra l'indépendance technologique qu'avec des logiciels libres. Les chiffres de la migration ont été manipulés par les agences de presse. Et puis, PDVSA n'est pas responsable de la mémoire, de la marée noire de mémoire. Parce que je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. La police enquête sur des incendies provoqués par au moins 70 personnes qui ont participé à un groupe de messages le 10 août et coordonné des actions pour mettre le feu à des camps et à des bois. Le nombre de foyers a augmenté subitement, c'est-à-dire le 10 août, a augmenté subitement en Amazonie. Je n'ai pas la dépêche qui en traite, mais en Bolivie aussi, il y a des foyers en Amazonie. On ne sait pas de quelle manière ils ont été allumés. Au Brésil, à Altamira Pará, la municipalité Pará, c'est la municipalité dans laquelle il y a eu le plus d'incendies et de déforestation au Brésil. Le district de Cachoeira da Serra, l'un des pôles agricoles que les agriculteurs se disputent le plus, on se souvient encore du pire incendie de l'histoire de Pará, qui a eu lieu le 10 octobre. C'est cette date qui est pour toujours ici le jour du feu. Il est bien connu que plus de 70 personnes d'Altamira et de Novo Progresso, entre syndicalistes, agriculteurs, commerçants et accapareurs de terres, se sont organisés dans un groupe de WhatsApp pour incendier les côtés de la BR-163, la route qui relie cette région de Pará au port du fleuve Tapajós et de l'état du Mato Grosso. Et oui, Tapajós, puisque le J ne se prononce pas Jota au Brésil. Leur intention était de montrer au président Jair Bolsonaro qu'ils soutiennent ses idées de réduire, entre guillemets, le contrôle d'IBAMA et peut-être d'obtenir l'annulation des amendes pour violation environnementale. À la demande du procureur de Novo Progresso, le délégué de la police civile a entendu certaines personnes liées au jour du feu, mais jusqu'à présent, personne n'a été arrêté. De quoi ? Mais ce sont des criminels, ces gens-là. Les entités des municipalités de Castelo dos Sonhos et de Novo Progresso ont reçu de nombreuses plaintes, des plaintes d'agriculteurs qui disent avoir subi des préjudices à cause du feu, tiens pardi. Beaucoup de haies détruites, de pâturages, de cultures, d'animaux tués, tous dévorés par le feu. Après que la dénonciation du jour du feu ait été rendue publique, une nouvelle version a circulé dans toute la région. L'éleveuse Nair Brissola de Cachoeira da Serra se fait l'écho d'une histoire que nous avons entendue partout. Elle est venue à nous alors que je conduisais le long de Butcharot, pas moi, hein, je sais pas qui, où notre équipe faisait un reportage sur un incendie. Ah ben c'est le journaliste. Êtes-vous de l'environnement ? A crié le gars, la fille de sa camionnette. Elle a crié. On lui a répondu non, nous sommes des journalistes. Bien, c'est génial, dit-elle. Qui met le feu ici ? Lui a demandé le journaliste qui a écrit l'article. C'est l'ICM Bio, un acronyme qui désigne l'Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité. Il y avait là une moto noire qui brûlait tout ici. Et ils sont venus sur ma propriété avec cette bicyclette attachée à leur camionnette. C'était écrit sur la porte. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais moi, j'ai rien compris du tout. Sans savoir que notre conversation était enregistrée, Nair continue. Ces gens, s'ils viennent chez toi, ils viennent armés, ils t'arrêtent, ils te prennent ton téléphone portable, tu ne peux rien faire. Sur les camions qui ont fait toute la terreur, il était écrit ICM Bio. Le président Bolsonaro a raison quand il dit que ces ONG sont en flammes. Bon, c'est bizarre, ça doit venir de la traduction. Bon, mais écoutez, j'arrête ça parce que c'est illisible et incompréhensible. Il aurait fallu revoir l'article en entier. Il faut dire que j'avais préparé d'autres articles et ma clé USB a craqué, elle est morte. J'ai beaucoup de problèmes techniques, n'est-ce pas ? Oui, bon. Alors Maduro serait coupable de l'indignation populaire en Équateur. Vous saviez ça ? Bon. Bon, maintenant c'est cet ordinateur qui fait des siennes et qui rame. Il est 12h35. J'ai la permission de Sidi de dépasser, mais ça posera des problèmes demain. Je ferai une coupe. Le voilà, le Maduro coupable. La droite latino-américaine perverse est effrayée par les échecs de son soi-disant projet de restauration conservatrice dans la région, et en particulier par ses revers permanents dans sa tentative de renversement de la révolution bolivarienne du Venezuela. Plusieurs fois, ses gouvernements se sont rendus ridicules. Dans un nouvel épisode de la farce qu'ils exécutent depuis janvier dernier, sous la direction de Washington, sept gouvernements latino-américains ont émis une déclaration accusant hâtivement Nicolas Maduro de déstabiliser l'Équateur, pays dans lequel se déroulent de vives protestations à cause de la hausse du prix du combustible et d'autres mesures demandées par le FMI et imposées par le gouvernement de Lénine Moreno, le traître. Les gouvernements de l'Argentine, du Brésil, de la Colombie, du Salvador, du Guatemala, du Pérou et du Paraguay, voyons, manifestent leur rejet catégorique de toute tentative de déstabilisation des régimes démocratiques légitimement constitués et expriment leur ferme soutien aux actions engagées par Lénine Moreno, indique un communiqué diffusé à Bogota par la chancellerie colombienne. Ben évidemment. De même, il rejette toute action destinée à déstabiliser nos démocraties de la part du régime de Nicolas Maduro, pêcheur, et de ceux qui souhaitent étendre les orientations de leur œuvre de gouvernement nocive à des pays démocratiques de la région. C'est ce qu'affirment ces sept pays qui font partie du groupe de Lima. Auparavant, le fugitif... Ah, il est parti ? Ah ben, vous voyez, je n'étais pas au courant. Pourtant, j'ai regardé la presse ce matin. Le fugitif Lénine Moreno, il est allé se cacher je ne sais pas où, avait accusé avant-hier Maduro et Rafael Correa, dont il a été le vice-président, de mettre en marche un plan de déstabilisation pour le chasser du pouvoir. Guaido et l'opéra bouffe. Pour compléter le cadre de cette incrimination, aujourd'hui, l'autoproclamé et discrédité Juan Guaido est allé déclarer aux médias « Nous sommes en train d'essayer de localiser Rafael Correa s'il est encore au Venezuela. » En effet, Correa a, ces derniers jours, rencontré le président du Venezuela et leur conversation a été envoyée à YouTube. C'est doublé en français. Guaido a affirmé qu'ils ont activé des mécanismes à cette fin, car il a la connaissance du fait que l'ex-président de l'Équateur serait au Venezuela, bien qu'il ne soit pas encore précisé s'il est encore sur le territoire. Ah bon ? Il serait au Venezuela, mais on ne sait pas s'il est sur le territoire. C'est n'importe quoi. Plus loin, il affirme « Nous n'avons pas de doute sur le fait que Correa est au Venezuela. » Bon, faudrait savoir, hein. Nous sommes en train de vérifier. Ah bon ? Bon, alors il ne sait pas. Il vérifie ou il n'a pas de doute ou le journaliste qui a écrit cet article se marre lui aussi manifestement. Au milieu de l'urgence humanitaire complexe que vit le Venezuela, c'est une tragédie que Maduro utilise de l'argent des Venezuela pour essayer tout simplement de déstabiliser la région, c'est Guaido qui le dit, qui le répète et le rabâche. Et Washington paye sa marionnette voleuse, Guaido. Ce même jour, au mouvement d'assistance à l'étranger des États-Unis, à l'USAID, on a signé un accord de coopération avec Guaido et son gouvernement, qui n'existe pas d'ailleurs. Voilà, cet accord implique l'engagement de destiner 98 millions de dollars à assister les Vénézuéliens à l'intérieur du pays, ce qui porte à 116 millions de dollars la somme que l'USAID s'est engagée à fournir à Guaido.